savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Elisabeth Le Quéret.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans tous les cinémas du monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une figure mythique du cinéma, d'un cinéaste dont le parcours est intimement lié à l'histoire de l'Afrique, de l'esclavage à la conquête islamique, du colonisateur français aux nouvelles bourgeoisies africaines. Alors les cinéphiles savaient reconnaître de loin cette silhouette unique, sa pipe éternelle et sa casquette qui faisait le bonheur des caricaturistes. Et puis surtout cette voix rocailleuse, inimitable, que l'on entendait de loin le soir au bord de la piscine de l'hôtel Indépendance pendant le FESPACO. Bien sûr, je parle de Sanben Ousmane, le doyen Sanben Ousmane qui nous a quittés le 9 juin 2007 à l'âge de 84 ans et à qui tous les cinémas du monde rendent hommage ce mercredi à l'occasion de la ressortie de l'un de ses plus beaux films, Le Mandat, accompagné d'un documentaire indispensable sur l'auteur de Camp de Tiaroy et de Tchiedo. Bonjour Samba Gadigo.
Bonjour, ça va, vous allez bien?
Je vais bien, et vous-même?
Ça va, ça marche.
Alors vous êtes écrivain et cinéaste, auteur entre autres d'un documentaire formidable sur Sanben Ousmane, co-signé avec Jason Silverman, et vous êtes en ligne avec nous depuis Dakar. Valérie Berti, vous êtes enseignante à la NYU, la célèbre New York University à Paris, vous êtes spécialiste entre autres du cinéma africain et autrice d'un livre sur Sanben Ousmane, Un homme debout, paru au Très Chic éditions Présence africaine. Bonjour.
Bonjour.
J'ai grandi dans un petit village au Sénégal, sans radio, sans télévision et sans journaux. Tout ce que j'avais, c'était les contes de ma grand-mère. À 14 ans, je rêvais de devenir français. Français, comme les personnages dans les livres que j'ai lus à l'école. À 17 ans, j'ai découvert les récits d'un artiste sénégalais. Les personnages dans ces récits ressemblaient à ma grand-mère, mes amis et moi-même. D'un coup, je ne voulais plus devenir français. Je voulais être africain. C'était les récits d'Ousmane Sanben, le père du cinéma africain.
Voilà, on vient d'entendre la voix unique de Sanben Ousmane au tout début de votre documentaire Samba Gadigo. Alors, être africain, ça a été un peu la grande question de sa vie, j'ai l'impression.
Oui, absolument, vous avez raison. Et cette identité, pour lui, elle est formée à partir des histoires qu'on nous raconte. Et notre conscience de nous-mêmes et notre conscience des autres. Toute son œuvre était une grande interrogation sur l'africanité. Et pour lui, la francité, l'africanité, la germanité, tout cela, ça dérive d'histoires qu'on nous raconte. Et pour paraphraser un peu Simone de Beauvoir qui disait « On ne naît pas femme, on devient femme ». Et comment devient-on femme? Bien sûr, c'est les histoires qu'on nous raconte qui modèlent notre conscience de nous-mêmes et notre conscience du monde.
Donc, Sanben, il est devenu africain. Et ça a été un long parcours et on aura l'occasion d'en reparler avec vous aussi, Valérie Berti. Mais racontez-nous, Samba Gadigo, la première rencontre. Parce qu'au départ, vous étiez un collaborateur, puis vous êtes devenu un collaborateur très proche, puis vous êtes devenu un ami, un intime, presque quelqu'un de la famille. Pourtant, ce que vous laissez entendre dans le doc, c'est que c'était pas gagné d'avance tout ça.
Non, pas du tout. D'abord, j'étais disciple de Sanben. C'est-à-dire qu'avant, avant de 1971, j'étais au lycée Federbe à Saint-Louis et tout mon rêve, c'était en fait de devenir français, justement à cause de l'influence des textes de Lagarde et Michard que j'ai posés. Et donc en 71, je tombe sur les bouts de bois de Dieu qui sont le masterpiece, si vous voulez, le chef-d'œuvre de Semmel. Et là, ça change complètement ma perspective. Et 17 ans plus tard, en 1989, je rencontre l'homme Semmel dans son bureau à Abdoukarim Bourgi. Je venais des États-Unis avec une invitation. Et tout de suite, il me dit, bah, écoutez, si vous voulez travailler pour l'Afrique et sur l'Afrique, le combat, c'est en Afrique. Donc, c'était une sorte de rejet. Bon, finalement, avec ma persistance aussi, il a compris que j'étais assez sérieux et que j'avais une vision. Donc voilà, il a accepté l'invitation, il est venu en 1990 et cela a été le déclencheur d'une collaboration de 17 ans jusqu'à son décès en 2007. Donc j'étais devenu le neveu, j'étais devenu le confident et j'étais son agent, je le représentais dans les institutions américaines.
Valérie Berti, vous n'avez jamais rencontré Semmel Ousmane, mais c'était quand même une rencontre littéraire ou cinématographique au départ?
D'abord littéraire, parce que j'enseigne la littérature francophone africaine, et petit à petit, bien sûr, ces films. Donc c'était je ne l'ai jamais rencontré, mais c'était une rencontre littéraire et cinématographique.
Vous, qu'est-ce qui vous accroche dans son travail?
Son humanisme, son ouverture. Samba montre et explore et montre très bien que c'était une quête et une volonté de d'être africain et de devenir africain. Moi, c'est l'Afrique et c'est l'homme. Moi, c'est l'homme, c'est l'écrivain, c'est l'artiste qui m'intéresse au-delà de tout, au-delà de l'Afrique, au-delà de la France, au-delà de la langue. C'est son humanisme.
Alors justement, on parle de l'artiste. Au début de votre film, Samba Gadjigo, on voit une maison presque en ruine. Sur le mur est inscrit Galetiedo, donc ça veut dire maison du rebelle. Et cette maison, en fait, on entre dans la maison et on est un peu consterné parce que, déjà, la maison est un petit peu en ruine. Et puis, elle est pleine de bobines rouillées, des livres, des dossiers. Enfin, on a le sentiment que tout est un petit peu à l'abandon. Est-ce que son héritage est un peu laissé en friche, en déshérence?
Oui, c'était pas fait mal au cœur, en fait, de savoir que quelqu'un comme Semmel, qui a tant travaillé, si vous voulez, pour mettre l'Afrique debout, et que telle personnalité était complètement oubliée et effacée de la mémoire collective. Donc pour moi, au-delà du travail académique que je faisais, il y avait un travail de sauvetage mémoriel qu'il fallait faire tout de suite. Quand je suis entré dans cette maison, vous l'avez dit, les bobines rouillées par terre, les manuscrits, etc. Et je crois que cela reflète quelque part un délabrement de notre mémoire. Nous valorisons ce qui vient de l'extérieur, mais il nous reste encore à comprendre que, Valérie le disait aussi, Semmel est un humaniste, il était universaliste, mais l'universel commence de soi. Et ça, c'est un aspect qui est complètement négligé. Semmel avait été complètement oublié. Mon documentaire, le travail que j'ai fait, était dans le sens de réhabiliter la mémoire de Semmel.
Semmel Ousmane, donc, je le disais, il est né en 23 dans un village du sud du Sénégal, alors colonie française. Donc, il est chassé d'école pour insubordination. Et son père, apparemment, lui dit cette phrase, « Ne travaille jamais pour un blanc ». Cette phrase, on a l'impression qu'elle a fait un chemin extraordinaire chez le jeune Semmel Ousmane, non, Samba?
Oui, et puis cette phrase a beaucoup influencé ses choix. Je vous donne un exemple. Quand on a déclaré l'indépendance du Sénégal en 1960, quand il est revenu, vraiment on lui a offert un poste au ministère des Postes et Communications. Et il a complètement décliné. Il était hors de question, lui, qu'il dépend de l'administration. Donc cette phrase de son père lui a servi de viatique, si vous voulez, dans ses choix d'artistes, d'écrivains et puis de militants. Il a toujours cherché son autonomie et son indépendance.
Valérie Berti, vous voulez parler des choix de Samba Nousman?
Je suis d'accord avec Samba, bien sûr, mais aussi peut-être ne jamais travailler pour un blanc, c'est aussi parce qu'il voulait, il ne voulait pas travailler pour qui que ce soit. Il voulait être libre, cette dimension, je dirais, autre, peut-être plus ouverte, que ce soit voilà blanc, africain ou autre. Il aurait refusé parce que je pense qu'en fait, il voulait être, comme il le dit, je reviens en Afrique pour être un artiste, pour militer à travers mon art. Mais nos deux avis nos deux perspectives sont complémentaires. C'est vrai que moi, je revendique et j'explore cette dimension artistique de Samben au-delà des clivages ou des représentations Afrique blanche. Voilà, donc c'est une autre perspective.
Alors, on aura l'occasion, à l'esprit de liberté et l'esprit frondeur de Samben Ousmane, on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. Mais pour l'heure, je vous propose de partir à Dakar, dans les rues de Dakar, pour suivre un pauvre d'entre les pauvres, le bonhomme Charette, Borom Sarret. C'est un film extraordinaire de Samben Ousmane, le premier tourné en 1963.
Borom Sarret, réveille-toi, j'ai du travail à la rue 32.
Oui, patron. Alvoir.
Borom Sarret, arrête. Conduis ma femme à la maternité, de suite.
Oui, patron. Encore cette voix? Qu'est-ce que je vais devenir avec cette voix? Ça grince encore. Et cette femme qui a toujours sa tête sur mon épaule. Et pourquoi payer sa tête ailleurs? Sur l'épaule de son mari? Ce sont les femmes de maintenant. On n'arrive jamais à les comprendre.
Borom Sarret, donc un film de 1963, 18 minutes hein, pour exposer avec une sobriété qui n'exclut nullement la cruauté, la pauvreté, l'injustice. Voilà, puisque en fait, l'histoire de ce pauvre Borom Sarret, donc le bonhomme Charette, c'est que quelqu'un va l'obliger à faire une course dans les quartiers bourgeois de Dakar. Voilà, il n'ose pas dire non et du coup, la police va confisquer sa charrette. Il va rentrer chez lui, non seulement sans argent, mais aussi sans son instrument de travail. Alors, c'est un film, Valérie Berti, Samba Gadigo, c'est un film extraordinaire à tous égards. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est que c'est le premier film tourné par un Africain en Afrique, Samba Gadigo. Et à l'époque, c'était, j'allais dire un tabou, non, c'était purement et simplement interdit.
C'était interdit, il y a ce qu'on appelait le décret Laval, Pierre Laval, qui était le ministère français des colonies, il me semble, qui avait très tôt compris en fait le pouvoir subversif du cinéma. Donc il était hors de question de permettre aux Africains d'avoir ce pouvoir-là. Donc il fallait étouffer dans l'œuvre toute velléité de révélation, de révolution, de changement. Donc cela a été jusqu'à 1960. Bon, il y a des Africains qui avaient des films sur l'Afrique, et des étudiants africains qui étaient en France. Donc vous avez absolument raison. Sur le plan historique, qui n'est pas le premier à avoir pris la caméra, c'est le premier à avoir pris la caméra et avoir fait en Afrique.
Est-ce que vous pouvez expliquer par quel miracle ce film a pu exister?
Oui, c'est un véritable miracle, en fait. Samben a raconté dans des histoires, quand il est revenu de Moscou, par exemple, où il a fait ses études cinématographiques, il n'avait qu'une vieille caméra soviétique de 16 mm. Il était désargenté, bien sûr, il avait ses idées. Et il raconte que, en fait, même les pellicules, en fait, les a glanées, qui est là, grâce à ses amis français qui lui donnaient, après avoir terminé leur propre film. Et quand il faisait le montage, il était à Paris, il attendait le soir que les gens finissent de le souvenir et puis il allait nuitamment travailler dans ce festival-là. Donc, si vous voulez, c'est un film qui a émergé ex nihilo, qui était le résultat uniquement de sa volonté, en fait. Donc, et c'est un moment où il n'y avait pas d'infrastructure cinématographique, il n'y avait pas de financement, il n'y avait pas d'école de formation. Donc, sur ce plan, Stemben a été un véritable pionnier, quoi. Et il l'a dit lui-même, en rigolant un peu, mais c'est assez sérieux, il faut être fou pour faire des films en Afrique.
Valérie Berti, dans le documentaire, on entend prononcer cette phrase incroyable sur Sanben Ousmane. Je cite, hein, Sanben, c'est quelqu'un qui dit « Je vais faire comme s'il n'y avait personne avant moi ». Alors, c'est l'écrivain Boubacar Boris Diop hein, qui prononce cette phrase. Et est-ce que, selon vous, Valérie, est-ce qu'elle résume bien Sanben ?
Oui, tout à fait. Dans ce qu'il a fait et dans ce qu'il a fait, il s'est imposé comme le père le plus ancien. Mais j'ai peut-être un scoop.
Ah,
j'ai peut-être un scoop. J'ai reçu un mail de Catherine Ruel qui elle-même avait reçu ce mail et certes Sanben est le plus connu, celui qui a une notoriété, mais il y a un jeune africain qui est à la recherche du premier film africain qui serait perdu, qui aurait été tourné en 1953.
Et donc pas par Sanben Ousmane.
Et donc dix ans plus tôt, qui s'appelle Mouramani, tourné en 1953, et par un noir d'Afrique francophone. Et ce film reste un mystère, et un jeune réalisateur guinéen est à la recherche de ce film.
Et donc, écoutez, on compte sur vous pour nous.
Donc
pour,
voilà,
pour
donc
nous tenir...
peut-être, ce qui n'enlève rien à Sanben, parce que c'est le plus ancien, mais non, ce qui veut dire que le cinéma et les images, au-delà du cinéma, mais bien avant les images, ont toujours fait partie de l'Afrique et de la culture africaine. Et Sanben a été l'un des pionniers le plus connu pour avoir su le mettre en image. Et il y a cette très belle phrase qui dit « Un peuple qui ne se regarde pas est appelé à disparaître. »
Ce masque est à moi. Je l'avais payé 50 francs. Plus jamais madame me dira quelque chose. Jamais plus madame me dira « Joanna fait du café ». Jamais plus, Joanna, prépare-nous du riz. Jamais plus, Joanna, enlève tes chaussures. Jamais plus, Joanna, lave la chemise de monsieur. Jamais plus, Joanna, tu es une fainéante. Jamais je ne serai esclave.
On vient d'entendre un extrait de La Noire 2, donc extraordinaire film aussi, hein, le premier long métrage de Sanben Ousmane, dure une heure environ. Hein. Voilà, donc c'est un film de 1965. Là, on vient d'entendre la voix de Mbissine Thérèse Diop, hein, qui joue une domestique embauchée à Dakar par une famille de coopérants, enfin d'expatriés, hein, comme on dirait aujourd'hui. Et elle va partir avec eux en France, se confronter à la solitude, au racisme, à la maltraitance de ses patrons, finir par se suicider. C'est un film absolument extraordinaire, Samba Gadjigo, qui va remporter beaucoup de prix, entre autres le prix Jean Vigo, le Tanit d'Or au festival, enfin aux Journées cinématographiques de Carthage, le prix du meilleur réalisateur au Festival des Arts Nègres, tous ces prix en 1966, donc un an après le tournage. Est-ce que ce film, La Noire 2, c'est le début de la reconnaissance internationale pour Sanben Ousmane ?
Ah oui, absolument. Non seulement la première à Dakar lui a donné un public international pendant le premier festival mondial des arts nègres, où il y avait des sommités, par exemple, André Malraux était là, par exemple, dans la salle, des éminences, des artistes afro-américains étaient dans cette salle.
Excusez-moi, je n'ai pas entendu qui était dans la salle.
André Malraux était là dans la salle, qui était à l'époque ministre français de la culture et dont l'appréciation en fait a aidé Sanben à obtenir le financement pour Mandavi, mais j'espère qu'on y reviendra.
Donc, on parlera du mandat tout à l'heure, oui.
On reparlera du mandat. Donc si vous voulez, 1960, c'est le début de la notoriété international de Stendhal. Il a été tellement remarqué. En fait, une année plus tard, il a été invité à être membre du jury au Festival de Cannes en 1967. Donc voilà ce qui a mis non seulement l'Afrique sur la carte mondiale du cinéma, mais également a lancé la carrière artistique d'Ousmane Sebène de presque 50 ans.
Et à l'époque, il est quasiment le seul cinéaste africain, hein, en l'occurrence d'Afrique de l'Ouest, à exister, comme vous le disiez tout à l'heure, Samba, sur la carte cinéphile mondiale. Alors, on en reparlera, mais avant, on va rester au Sénégal pour une pause musicale avec Oasis Diop. C'est le choix de notre réalisatrice Fanny Renard.
Parler de souvenirs, parler du passé, parler, 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 parler du passé, quand la terre rêvassait, tous nos rêves volés par le progrès, progrès, progrès. Vous en avez rêvé, nous l'avons inventé. À quoi bon rêver? Oh, oh, oh. Si on peut tout posséder, déjouer les pièges du progrès. Parler sans jamais laisser parler, toujours inventer. Mon malheur, rêver mon bonheur, mentir l'histoire de celui, leçon de savoir-vivre, parler du beau temps, dire adieu à l'ennui, l'ennui, qui dit que les nuages sont mauvais présages, la météo.
Vous êtes bien sûr RFI dans tous les cinémas du monde avec nos deux invités, Samba Gadjigo depuis Dakar et Valérie Berti avec moi dans le studio 1 de RFI. Alors, est-ce qu'on peut avec vous deux déjà éclaircir cette inversion un peu mystérieuse, Samben Ousmane? En fait, son prénom c'est Ousmane, son nom de famille c'est Samben. On a toujours dit qu'en fait c'était un acte de révolte, Valérie Berti, d'avoir inversé nom et prénom. Est-ce que c'est vrai?
C'est ce que j'ai lu et je pense que Samba est plus compétent que moi pour
y répondre. La légende.
Je ne sais ça qu'à travers les nombreuses lectures, et c'est vrai que c'est un petit peu confus, mais je pense que Samba, qui l'a connu, est de source première.
Alors Samba, est-ce qu'il faut imprimer la légende?
Oui, dans nos cultures ici, d'habitude c'est le prénom, ensuite le nom. Les gens diront Samba Gadjigo. Mais par exemple, moi, quand je suis allé à l'école en 1960, les instituteurs exigeaient d'abord que ce soit le nom de famille, ensuite le prénom. Donc les gens ont commencé à m'appeler Gadjigo Samba. Donc Semben a maintenu, en fait, quand il écrit, c'est Semben Ousmane. Quand il fait des films, c'est Ousmane Semben. Alors on lui a posé la question, mais pourquoi vous maintenez cette inversion-là? Il dit que, tant que le Sénégal n'aura pas dépassé le stade du néocolonialisme, je garderai cet ordre-là pour montrer qu'en fait, rien n'a changé. Et que, oui, nous avons un drapeau, nous avons notre hymne national, mais que nous sommes toujours colonisés. Donc, je vais garder mon nom de colonisé.
Valérie Berti.
Pour enchérir sur ce que Samba dit, ce que je trouve, et revenir sur Borom Saret et La Noire 2, ces deux films sont très intéressants, et par rapport au nom et par rapport à la voix et qui prend la parole, ce sont toutes des voix intérieures. Dans ces films, les acteurs ne prennent pas la parole. Hein. Donc dans La Noire 2, c'est une voix off, et Borom Saret, c'est aussi Samben qui parle. Ce n'est qu'à partir du mandat où la voix, les Africains prennent la parole.
Et ils ne la prennent plus en français.
Et ils ne la prennent plus en français. Donc les deux premiers films de Samben, ils n'autorisent pas les acteurs africains à parler. Hein. Donc on est encore dans cette situation, je dirais, politique et postcoloniale, où ils n'ont pas encore récupéré ou pris possession de leur voix au cinéma. Ça, je trouve ça très intéressant. Et même par rapport au nom de Ousmane Sembène, Sembène Ousmane, il y a toute cette, voilà, cette récupération de qui on est et comment on veut se dire. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et après, le mandat, c'est autre chose.
Alors justement, on va en parler du mandat, puisqu'on est à la fin des années 60. Sembène Ousmane, c'est une grande figure du milieu artistique post-colonial. C'est une voix engagée, toujours prête à dénoncer le racisme et les injustices. Vous en parliez, Valérie Berthy. Et lui qui a toujours dit qu'il voulait faire du cinéma pour parler au plus grand nombre, voilà qu'il offre au public une farce, un brûlot incendiaire sur les mésaventures d'un pauvre homme, Ibrahima Dieng, chômeur professionnel et chroniquement sans le sou, qui reçoit presque par magie un mandat de 25 000 francs CFA de Paris. Voilà, c'est un extrait du Mandat. On l'entend dans l'extrait Mandabi. C'est un film de Sembène Ousmane de 1968. Alors, je le disais tout à l'heure, c'est une tragicomédie. On peut raconter l'histoire sans bagadigo. C'est donc Ibrahima qui est pauvre comme Job, mais finalement assez heureux et qui reçoit un mandat de son neveu et boire à Paris. Et c'est à partir de là que tout explose en plein vol. Parce que tout le quartier, évidemment, demande sa part. Est-ce que, Samba Gadigo, est-ce que... c'est vrai qu'on a peu parlé de la mise en scène des précédents films. Et bon, entre autres, dans Brom s'arrête, il y a une influence néo-réaliste qui est très très forte, un noir et blanc très épuré. Là, avec le mandat, on change complètement de style.
Oui, Sembène, si vous voulez, c'est extraordinaire. Toute sa cinématographie, du début à la fin, était une sorte de quête de langage du cinématographique qui lui permettrait de communiquer avec les Africains. Oui, vous avez raison. Il a été formé à Moscou, bien sûr. Il était très influencé par le cinéma soviétique, très proche des Français, bien sûr. La Nouvelle Vague également a influencé Sembène, le néo-réalisme italien. Mais cela étant dit, malgré ses influences de jeunesse, il fallait pour lui, comme je l'ai dit, trouver le moyen de s'adresser aux Africains. Et le Wolof, Mandabi en Wolof a été le premier film qui a donné l'occasion de donner la parole aux gens sans parole, pour paraphraser un peu M. Césaire, d'être la voix de sa voix. Donc ça, c'est un film qui a beaucoup révolutionné la cinématographie de Sembène et a balisé la voix au cinéma africain par l'appropriation des langues africaines. Mais au-delà de Ibrahima Dieng, je crois, le mandat qui aurait dû être une bénédiction a été une tragédie qui a permis à Ousmane Sembène d'explorer la situation de post-colonialité en Afrique. Comment nous nous sommes retrouvés aliénés dans nos propres pays, dans nos propres culture par l'imposition d'une administration, d'une forme d'administration qui vient d'ailleurs, et par l'imposition d'une langue officielle qui n'est pas parlée par la majorité des Sénégalais. Donc, oui, il y a ce mandat, oui, il y a l'histoire de Ibrahima Dieng, mais Ibrahima Dieng a été un prétexte pour explorer, si vous voulez, les heures et malheurs de notre colonialité en Afrique.
Valérie Berthy, est-ce qu'on sait comment il est accueilli, ce film, Le Mandat? Parce qu'on peut imaginer que tant que dans le viseur de Sembène se trouvait le néocolonialisme, le racisme, etc., ça passait plutôt bien. Là, c'est un film qui est quand même extrêmement critique sur la société sénégalaise. Il y a un imam qui a un rôle quand même extrêmement négatif. Enfin, on aura l'occasion de reparler de la dent dure de Sembène Ousmane contre la religion en général et l'islam en particulier. Donc le livre au départ, puisqu'il y a un roman, Le Mandat en 66, et deux ans plus tard le film, ils sont accueillis comment au Sénégal?
Ça, je connais moins bien la réception de ces ouvrages, parce que j'étais pas au fond. Mais je pense que très bien, et sans doute par les politiques. Alors ça, peut-être Samba connaît mieux que moi, mais Paulin Viera avait dû soutenir, en fait, devait soutenir les films de Sambène. Je crois ce qui est intéressant, et peut-être que ce que en Afrique, ils ont compris dans le film de Sambène, c'était une critique de la nouvelle, comme Samba dit, de la nouvelle bourgeoisie africaine qui a remplacé les Blancs. Et donc, ces films sont très, très politiques. Et on le voit déjà dans Borom s'arrête. Le charretier, en dépassant sa zone de vie, de confort, qui va dans ses quartiers de bourgeoisie, bourgeoisie africaine. Et c'est là où il se fait voler. Il se fait voler par cette nouvelle bourgeoisie africaine. Donc, cette critique politique de cette nouvelle société moderne, avec ce renouveau et cette nouvelle bourgeoisie, elle commence dans Borom s'arrête. Noir 2, c'est un petit peu différent parce que ça se passe en France, c'est pratiquement le seul qui se passe en France. Et Manda, on revient en Afrique, hein, parce que c'est là où est son combat, dit-il. Mais le combat, c'est aussi contre soi-même. Et je trouve que c'est très intéressant. Et pourquoi serait-il mal accueilli à partir du moment où c'est une réflexion subtile, intelligente, sur les mécanismes à ne pas reproduire de manière aveugle.
Samba, Gadigo.
Oui, comme je disais tantôt en parlant de la Noire 2 qui a bénéficié de circonstances extraordinaires, c'est-à-dire le Festival mondial des arts nègres en 1970, de la même manière, le mandat a bénéficié d'un contexte historique et social et politique très, très, très important. C'était les grèves des ouvriers et travailleurs en 1968, qui a d'abord commencé en France et comme une sorte de vague déferlante, on l'a retrouvé également dans les universités et dans les syndicats. Et le jour de la sortie de Mandabi à Dakar, c'était en pleine effervescence et avec des interviews, par exemple, des Africains comme Boubacar Boris Diop, justement, qui étaient des étudiants dans les années 68, et tout ce que véritablement, ils étaient complètement fous avec le mandat. Ils passaient véritablement, avec ce film-là, Sambène avait jeté les bases de refonte de la société sénégalaise, des sociétés françaises, puis voilà. Pour la première fois, on s'entendait parler Wolof. Donc, vous voyez, mais les revues, les réactions étaient mitigées. Autant la jeunesse révolutionnaire était complètement partie gaga, évidemment du côté du pouvoir. On se rappelle encore cette phrase de Léopold Sédar Senghor, qui était le président du Sénégal, qui était dans la salle du Théâtre National Daniel Sorano pendant la première des films, et le lendemain, tout de suite, il a déclaré à la presse, et je cite, si Sambène veut faire la révolution, il doit prendre ses responsabilités.
Donc, oui, donc il était déjà, il avait bien compris la charge explosive du film. Et effectivement, cette dimension, alors je parlais du personnage de l'imam. Bon, évidemment, il y a pas que ça dans le mandat, mais c'est quand même un personnage avide et corrompu, donc qui laisse entendre ce que Sambène pensait de l'islam. Bon, 10 ans plus tard, en 79, il récidive, mais puissance 10, hein, puisque dans Tchédo, il va relater la révolte de guerriers traditionnels, donc les Tchédo, qui sont des guerriers aux convictions animistes au XVIIe siècle, qui refusaient de se convertir aux religions monothéistes et entre autres à l'islam. Alors, l'œuvre, là, pour le coup, ne va pas être critiquée par le président Léopold Sédar Senghor, mais directement frappé d'une interdiction de diffusion au Sénégal, hein, en d'autres termes censurée. Donc c'est là que, effectivement, Sambène commence à avoir des gros ennuis avec la censure. Samba Gadigo.
Oui. Il y a une sorte de courbe, si vous voulez, tragique dans le parcours de Sambène. Oui, de 1963 jusqu'à 1976, on pourrait dire que c'est l'ascension de Sambène. Et comme l'oiseau mythologique, car il s'est tellement rapproché du soleil que ses ailes ont fondu, c'est-à-dire qu'il s'est attaqué à des institutions qui étaient jusque-là intouchables. D'abord, c'est le néocolonialisme français. Ensuite, bien sûr, c'est l'islam qu'il a exploré et les traditions également. Donc, il a touché à tous les éléments tabous de cette société. Et quand il a fait le Tchédo en 1976, ça c'était l'histoire de Gros. Et Senghor, évidemment, étant catholique, mais ayant un électorat musulman au Sénégal, bien sûr, il s'est senti obligé d'interdire ce film-là de 1976. et jusqu'en 1980. Et le film a été vu au Sénégal qu'en 1981, après le changement, je ne dirais pas de régime, mais de direction, quand Abdou Diouf a pris le pouvoir. Donc oui, on a essayé de réduire ce même au silence en interdisant ces films. Non seulement au Sénégal, en fait. Pour mémoire, quand il a fait, par exemple, Emitaï, en 1971, sur le recrutement forcé des soldats en Afrique pour la Deuxième Guerre mondiale, et bien ce film a été également interdit en France. Donc son discours était tellement direct, il était tellement anti-établi, il était tellement corruption, qu'il s'agisse de corruption africaine ou corruption européenne, que véritablement il a été confronté à la France de l'autre côté.
Oui, d'ailleurs, il se trouve, en tout cas pour Tiedo, personne ne veut le financer, il doit hypothéquer sa maison, donc c'est quelqu'un qui vraiment ne renonce à rien pour porter à bout ses projets. Et d'ailleurs, à la fin des années 80, voilà, il prouve une fois de plus à ceux qui en douteraient qu'il est un franc-tireur, avec un film qui révèle la part d'ombre de la Deuxième Guerre mondiale, l'un des épisodes les plus sombres de l'armée coloniale française en Afrique, le massacre de tirailleurs sénégalais, le 1er septembre 44, dans le camp militaire de Tiaroy, à la périphérie de Dakar.
Oui.
Ah, ça.
Bonjour.
Bonsoir, Sarsa Sef. Voilà café, Sarsa. Ça, sucre pour moi. Acétate malsain noir.
Ça ira. Vous ne remuez pas?
Ah, tout de suite, ça.
Merci.
Nous préparer repas pour grands combattants.
Très bien.
Merci, Sarsasef.
Salut.
Au revoir, Sarsasef.
Mais nous, il y a Arzan français.
Ah oui, nous, il y a Arzan français. Oui. Pas de problème. Ah. Tu dois donner Arzan français? Lui donner ma sandise avec un petit quelque chose.
Ah, toi, moyen connaître Massé Noir Sénégal.
Moi, connais Grand Massé avec Massé Noir.
Moi, c'est d'accord.
D'accord, nous, c'est parti. Nous, c'est parti. Hein.
Voilà, un extrait de Cantiaroy, donc un film de 1988. Donc le film, en fait, va obtenir le Grand Prix du jury à Venise en 88. Et finalement, il sera diffusé en France des années plus tard, hein, seulement. Et je parlais d'une part d'ombre, hein, de la Deuxième Guerre mondiale, mais Samba Gadigo, ça raconte aussi ce film, enfin, votre documentaire raconte une part d'ombre de Samba Nousmane. Hein, cette chose incroyable, c'est un sujet, en fait, qu'il a volé, entre guillemets, à Boubacar Boris Diop. Comment c'est possible?
C'était la partie d'ombre de Sembène, justement, parce que bon, jusqu'à 1980, Senghor, qui était au pouvoir, évidemment, a fait la promotion du cinéma sénégalais, la promotion de la culture. Et quand Abdou Diouf est venu au pouvoir en 81, jusqu'à 85, il n'avait absolument rien fait pour le cinéma et les cinéastes avaient élevé la voix. Et en forme de compensation, on a créé la SNPC, la Société Nouvelle de Production Cinématographique. C'était pour permettre aux jeunes réalisateurs d'avoir leur voix. Et Sembène, qui était le doyen, a été choisi comme autorité morale, donc comme PCA. Oui, donc ils ont lancé un concours d'écriture de scénario. Oui, vous avez raison, Boubacar Boris Diop et Ben Diogoy Bey ont gagné, bien sûr, cette écriture-là. Et voilà.
Et donc Boubacar Boris Diop avait écrit ce fameux scénario Cantiaroy, qui a beaucoup intéressé Sembène, au point qu'il le lui a pris.
Non, c'était plus compliqué. Sembène, Boubacar Boris Diop avait écrit un scénario qui s'intitulait Tiaroy 44. Et Sembène, c'était Camp de Tiaroy. Et Boris Diop s'est beaucoup exprimé là-dessus. La question n'était pas que Sembène avait voler une histoire, quelle qu'elle soit. Et là, je cite Boris Diop, Sembène ne plagie personne. S'il y a quelqu'un qui doit être plagié, c'est Sembène qui va être plagié. L'histoire, c'était que les gens qui avaient gagné le prix, l'argent pour faire le film, ne le faisaient pas. Et Semben, en tant qu'autorité morale, a dit, mais écoutez, c'est l'argent du contribuable, on ne peut pas le laisser gaspiller cet argent. Et jusque-là, tout le monde était d'accord. Mais le hic, là où il y a la faillite morale de Semben, c'est qu'il s'est approprié les fonds et il a fait son propre film sur ce sujet. Bon, vous savez qu'il a été lui-même soldat pendant la Deuxième Guerre mondiale. De février 1944 jusqu'à 1946, il était dans le désert du Niger en tant que soldat. Donc il avait faim, il avait envie de tout cette histoire-là. Et cela a créé toute une controverse à Dakar, on l'a traité de voleur, etc. Donc ça a été un moment sombre dans la vie et dans l'évolution de Semben, sans compter bien sûr l'interdiction du film en France. Donc ça a été une sorte de dur entre Semben et la jeunesse sénégalaise, préalablement, qui en faisait, qui en avait fait un héros. Bon.
Justement, on parle de héros aujourd'hui. C'est une question que je vous pose à tous les deux, Valérie Berti, Samba Gadigo. Comment il est vu au Sénégal, Semben Ousmane, en tant que romancier, en tant que cinéaste? Et qu'est-ce qu'il apporte? Est-ce qu'il a une succession intellectuelle? Est-ce que les gens, les jeunes cinéastes ou les jeunes romanciers se revendiquent de lui? Valérie Berti.
Alors ça, je laisserai Samba parce qu'il est au Sénégal. Mais en tout cas, moi, j'enseigne Semben depuis 20 ans aux étudiants principalement américains, mais maintenant un peu du monde entier parce que ma fac accueille des étudiants un peu du monde entier, pas seulement des Américains, d'Amérique du Nord, mais ils adorent lire et voir les films de Semben. Aujourd'hui, les films et les œuvres de Semben sont d'une actualité qui me surprennent de jour en jour. Donc, et chaque fois, on trouve des thèmes nouveaux, des thèmes d'actualité. Et en France, je connais moins. Il est beaucoup moins connu, et ça, c'est pour la raison pour laquelle j'écris ce livre. Mais donc, je vais parler des États-Unis, des étudiants dans les facs américaines. Ils en redemandent.
Samba Gadigo.
Oui, on pourrait dire qu'il y a une renaissance Semben, en fait. Depuis son décès, bien sûr, au niveau des États-Unis, je ne compte plus le nombre de thèses de doctorat qui étaient faites ou qui sont en train d'être faites sur Semben. J'ai apporté ces films jusqu'à São Paulo, au Brésil, et récemment, j'ai pris la noire de Borom Saret dans une université en Chine. Mm-hmm. Et oui, Valérie l'a dit, au niveau des États-Unis, il y a une culte. Et d'ailleurs, cette renaissance à laquelle je faisais allusion n'aurait pas eu lieu, à mon avis, n'eût été l'intervention, par exemple, de quelqu'un comme Martin Scorsese du World Cinema Foundation. Vous avez, par exemple, une activiste comme Angela Davis m'a dit, par exemple, à New York, que véritablement le mouvement noir, le Black Students Revolution, n'aurait pas eu lieu aux États-Unis s'il n'y avait pas l'influence de Semben, s'il n'y avait pas l'influence de la noire, s'il n'y avait pas l'influence des pouvoirs de Dieu. Mais ironiquement ou paradoxalement, c'est que nul n'est prophète ce soir. Et je parle de Semben, dans le contexte du Sénégal, je parle de Semben comme étant, à mon état moi-même, un célèbre inconnu. Semben n'est pas aussi connu au Sénégal qu'il aurait dû être connu, mais son héritage reste entier, à mon avis, qu'on fasse comme Semben, qu'on fasse différemment de Semben, Semben demeure la référence. Et il y a des jeunes cinéastes, je ne vais pas citer le nom, qui sont des héritiers de Semben, surtout parmi les jeunes femmes.
Mais est-ce qu'il
y a des documentaristes qui sont là en ce moment? Quand vous regardez le film, vous retrouvez tout de suite cet activisme, ce militantisme, c'est un cinéma militant. Bien que ce ne soit pas un cinéma de pancarte, il y a une véritable recherche esthétique, mais tout le cinéma de Semben est un cinéma militant, et je dirais que jusqu'à présent, 80% des films africains s'inscrivent dans cette logique du cinéma nationaliste.
Valérie Berti.
Samba, j'en profite, c'est une question. J'ai pas pu aller au Sénégal ces dernières années, mais je me posais cette question. Est-ce que les livres, parce que Semben, n'oublions pas, a écrit aussi une dizaine de romans, hein, des nouvelles, et ses films sont en général soit d'abord un roman, et pour Gailloir, c'était d'abord un scénario, ensuite un roman, donc il y a vraiment ce va-et-vient entre littérature et cinéma. Est-ce qu'il est enseigné au Sénégal, Semben? Est-ce qu'il fait partie des programme dans les écoles. Voilà. C'est une question que je me pose depuis longtemps. J'ai pas pu vérifier. Est-ce que, ou alors la jeune génération ne lit pas. Je sais qu'il y a moins de salles de cinéma au Sénégal maintenant. Donc c'est plus difficile d'aller au cinéma. Mais voilà. Mais est-ce que c'est au programme des écoles?
Oui, dans les années 60-70, par exemple, on enseignait les bouts de bois de Dieu dans tous les lycées africains. Ensuite, bien sûr, il y a une sorte de recherche. Mais depuis le décès de sa mère, je crois, comme je disais, il y a une sorte de renaissance. Je parlais à une jeune lycéenne il y a juste deux jours, je lui disais, mais qu'est-ce que vous lisez? Et entre elles, elle me dit, ah oui, on a au programme les bouts de bois de Dieu. Donc, si vous voulez, cette renaissance, il se retrouve au niveau aussi de la littérature de Saint-Bel. Et je ne veux pas prendre le crédit de tout ce renouveau-là, mais depuis le 10e anniversaire de Saint-Bel, nous avons créé un programme que nous avons intitulé Saint-Bel à travers l'Afrique. Et aujourd'hui, nous avons couvert 41 pays africains avec des projections de films de Saint-Bel. Même cette année, malgré ou à cause de la pandémie, on a organisé des projections en ligne qui ont touché 29 pays africains. Donc oui, il y a une renaissance de Saint-Bel. Même au Sénégal en ce moment, les films, oui Valérie, vous avez raison, les salles de cinéma n'existent plus. Comme l'a reporté Vieira dans les années 80, il y avait plus de 80 salles de cinéma au Sénégal. Aujourd'hui, ces salles-là se comptent sur les bouts de bois. Mais grâce à la technologie, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller dans une salle de cinéma pour voir un film. Encore que Saint-Bel avait une conception particulière du cinéma qu'il appelait une école du soir. Donc peut-être que ça ne devait pas être une expérience individuelle, mais une expérience collective. La manière dont on racontait les histoires dans l'Afrique traditionnelle, le soir, les gens se mettaient autour du feu. Bref, pour répondre directement à votre question, la situation n'est pas telle qu'on voudrait qu'elle soit, mais je crois qu'il y a une sorte de bourgeonnement, une sorte de renaissance de Saint-Bel, non seulement au Sénégal, en Afrique, mais à travers le monde. Et je crois que c'est surtout au niveau des États-Unis qu'on voit ce boom, cet enthousiasme pour les œuvres de Saint-Bel dans African Studies, Francophone Studies.
Merci beaucoup Samba Gadigo. Donc on a bien compris, hein, vous êtes, s'il y a une renaissance Saint-Bel, vous en êtes la cheville ouvrière. Et puis on rappelle, hein, le titre de votre film, donc distribué en France par Splendor Film en même temps que Le Mandat, ça s'appelle Saint-Bel avec un point d'exclamation, et vous le co-signez avec Jason Silverman. Merci beaucoup. Merci pour cette conversation en direct de Dakar.
Merci beaucoup pour cette opportunité et désolé pour les petits couacs techniques.
Merci.
Donc je rappelle que vous êtes l'autrice d'un livre sur Saint-Bel Ousmane, Un homme debout, paru aux éditions Présence africaine. Et on se quitte avec la très belle musique de votre film, Samba Gadigo, Wakaya. C'est une musique dont vous nous avez dit tout à l'heure qu'elle avait été composée par un groupe de Bruxelles à l'occasion d'une visite de Saint-Bel Ousmane. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Le Quéré, à la réalisation, Fanny Renard. Voilà, en pli bagage, on vous donne rendez-vous samedi prochain sur La Croisette pour parler du 74e Festival de Cannes qui ouvre ses portes mardi prochain. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente semaine à tous. RFI, la